Pensez peut-être pour les baguettes. Tu sais? Non, mais tu sais, les mitaines d'enfants, là, ils ont des cordons. T'sais, tu passes ça dans ton côte, tes échappes, puis ils reviennent. Juste, je sais pas, peut-être qu'on peut faire ça pour le temps des fêtes. Faire des petits cordons pour les baguettes de Bruno. Il n'est pas au drame pour faire sa réplique. Merci pour la louange, c'était extraordinaire. Amen. Ah, c'était génial. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Marc. On s'en va dans un texte tout à fait évident pour le contexte ce matin. Oscar avait un petit peu de difficulté à me croire que j'allais prendre un texte sur un démoniaque pour Noël. Il est fatigué, il est dû pour ses vacances, le gars. Il ne sait plus quoi faire. On m'a rappelé, je voulais juste mentionner pour les cours bibliques. C'était pas illustré graphiquement, je pense pas que ça l'était, mais il y a un ordre logique dans les cours, d'accord? Notre travail à nous, comme je l'ai mentionné à travers la série qu'on a fait, le chrétien upgradé, notre travail à nous, c'est de donner une direction, comme berger, comme pasteur. Et donc, c'est notre direction qu'on apporte dans votre vie, si ici c'est votre assemblée, de venir à 9h le matin. Je sais que c'est un effort pour plusieurs. Des fois, les horaires ne le permettent pas. Des fois, il y a de bonnes raisons pour ne pas être là. Mais en même temps, on vous demande d'être ici à 9h, de venir prendre les cours. De la même manière qu'on vous parle des petits groupes, c'est la direction qu'on vous apporte pour le bien de votre âme. C'est notre compréhension. C'est ça qu'on doit faire comme Église pour avancer ensemble. Et dans les cours qui sont offerts, il y a un ordre logique. D'accord? On commence par prendre un cours, évidemment, comme la foi chrétienne expliquée. Puis une fois qu'on est rendu à la foi chrétienne comprise, bien, on va aller prendre le cours sur le baptême. D'accord? On va se préparer pour le baptême, ensuite le cours de membre. Vous avez vu que le cours de l'Église de l'Espoir, qui est notre cours de membre, n'était pas affiché. Il va être donné en un samedi exceptionnellement à la prochaine session, puis il va revenir les dimanches matins à la session du printemps. Ensuite de ça, on va aller prendre un cours comme le cours d'évangélisation explosive pour s'équiper. Et donc, il y a un ordre logique à suivre pour pouvoir déposer des bases dans notre vie chrétienne. D'accord? Et l'idée derrière ça, ce n'est pas simplement d'aller chercher des connaissances. Alors, si vous avez plein de connaissances sur l'évangélisation, par exemple, mais ce n'est pas quelque chose qui est intégré dans votre vie, bien, cherchez la face de Dieu, parce que peut-être que Dieu veut que vous alliez prendre le cours d'évangélisation. Mais vous dites, oui, mais je connais tout ça. D'une connaissance comme le Seigneur l'entend? Non, peut-être pas. D'accord? Alors, peut-être que vous avez besoin de faire des sorties d'évangélisation. C'est ce qu'on fait dans ce cours-là. On voit la théorie, puis on fait des sorties ensemble. Donc, on apprend à présenter l'Évangile. D'accord? Alors, le but, c'est vraiment que ces choses-là soient assimilées dans nos vies, que ça fasse partie de notre vie chrétienne quotidienne. Autre chose à mentionner, cette année, on a préparé une carte photo de la famille Étier. Vous avez Jade, qui est en position kata, tout le kit. Vous pourrez juste aller la chercher si vous désirez avoir une photo du beau Bastien et de la belle Jade. La belle Esther, même de notre chien Sushi, puis moi, je suis à quelque part là-dedans. Mais vous pourrez aller les prendre à la table. Il y a un enfant qui va vous les donner si vous désirez avoir ça cette année. Est-ce que c'est possible de couper ça? J'ai une espèce de grésillement. On va aller ensemble dans la prière. C'est bon? Seigneur Jésus, on s'apprête à fêter la fête de Noël, en souvenir de ta naissance, Seigneur, de ta venue au milieu de nous, sur cette terre, pour nous offrir le salut, pour nous offrir la réconciliation avec Dieu, et comme un témoignage bien puissant et bien vivant de l'amour de Dieu, tu es venu parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur Jésus, nous t'avons adoré ce matin par nos chants et mon cœur est en adoration devant la grâce que tu m'as faite d'être venu vers moi, d'être venu vers les hommes comme ça, d'avoir persévéré jusqu'à la croix, de t'être offert en sacrifice pour moi comme pécheur. Tu m'as fait grâce, tu as eu pitié de moi dans ma rébellion, dans mon errance et tu m'as amené au Père. Sois béni, Jésus-Christ, pour ta miséricorde, ta pitié envers moi. Sois béni pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. J'ai connu que l'Éternel est bon. Je sais que tu es bon parce que j'ai connu tes grâces, la grâce du salut, la grâce de l'adoption avec ton esprit qui habite en moi, qui est un esprit d'adoption qui m'aide à saisir à quel point je suis ton enfant. La grâce de te savoir toujours avec moi. La grâce d'avoir apporté une direction dans ma vie. La grâce de m'avoir donné une famille spirituelle ici sur la terre. La grâce d'être accompagné de tes prières, Jésus, actuellement, chaque jour, jusqu'à ce que tu viennes me chercher. La grâce de savoir que j'ai une place préparée auprès de toi pour l'éternité. La grâce de savoir que tu me portes dans les moments de désespoir. La grâce de savoir que tu ne m'abandonneras pas dans mes moments d'infidélité parce que toi, tu es fidèle. Oh Seigneur, quelle histoire j'ai à raconter. Quelle histoire j'ai à raconter. Viens parler à nos cœurs ce matin. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Marc 5, verset 1, je vais vous faire la lecture. Sauvez-vous pas, il y a un lien avec Noël, OK? Je vous le dis. Marc 5, 1. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa. Je suis en train de lire la version sommaire pour ceux qui auraient l'impression de ne pas être chez eux. Je suis en train de lire la version sommaire. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac dans la région de Gérasa où Jésus débarqua. Aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné, on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas! » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme! » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 têtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où ils se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc, et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ou de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Vous aurez compris que ce n'est pas Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qui a été libéré. Dimanche, le 21 décembre 1856, il y a de cela quelques années, Charles Haddon Spurgeon, âgé de 22 ans, pasteur à l'église, dans une église de 4000 personnes, l'église de New Park Street Chapel à Londres, a prêché en se basant sur ce message. Le 21 décembre 1856. Ceux qui ne connaissent pas Spurgeon, c'était un homme pas mal spécial, fils petit-fils de pasteur, fils de pasteur. Il allait dans une congrégation baptiste à une époque où les baptistes n'avaient pas le droit d'aller à l'école, parce qu'il fallait faire partie de l'Église anglicane pour avoir le droit à l'instruction. Et donc, il n'avait pas le droit à l'instruction, mais comme son grand-père et son père étaient pasteurs, il y avait une bibliothèque et il s'est instruit lui-même en lisant dans la bibliothèque. C'était un homme spécialement doué. Maintenant, il s'est converti à l'âge de 16 ans. À 16 ans, il s'est converti. Il n'avait pas donné sa vie à Christ auparavant. Il lisait les Écritures, il lisait un paquet de choses. La connaissance était là, mais la conversion, la nouvelle naissance ne s'était pas produite. Et c'est en se rendant à un rendez-vous qu'il a été empêché ou obligé par une tempête de neige de se réfugier dans une église méthodiste. Et selon le récit de Spurgeon, le prédicateur était assez médiocre. Mais il a prêché la parole de Dieu et Spurgeon s'est converti. Et à l'âge de 17 ans, il a commencé son premier pastorat. À l'âge de 20 ans, il a pris le pastorat pour cette assemblée dont je vous parle. Il y avait 200 personnes. Deux ans plus tard, en 1856, à l'âge de 22 ans, 4000 personnes constituent la congrégation. Il y a une multitude de nouveaux convertis dans cette assemblée. Et le 21 décembre 1856, Spurgeon se prépare à renvoyer tous ces nouveaux convertis dans leur famille pour la période des fêtes. Et il décide de prêcher à partir de ce passage. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a de belles leçons pratiques à tirer pour nous, à apprendre pour nous, alors qu'on se prépare à aller vers nos familles. Le titre de son sermon, c'était « Going home ». Allez vers les vôtres. Retournez à la maison. Alors, regardons le passage d'un peu plus près. Pour nous, aujourd'hui, le 19 décembre, à la veille de Noël. Quand Jésus accoste sur le territoire des Gadaréniens, il fait la rencontre d'un personnage assez bizarre, très étrange. Sa condition était pire que quelqu'un qui est saisi de folie. D'accord? On pourrait croire que c'était simplement quelqu'un qui souffrait de folie, qui avait une maladie mentale. Non, l'évangéliste nous dit qu'il avait fait l'expérience de relations avec des esprits impurs. Quelque chose qui n'est pas tellement commun pour nous. Maintenant, cet homme-là était possédé littéralement par des esprits impurs et sa vie était complètement déréglée par cette expérience qu'il avait vécue. Il avait complètement perdu la tête. On ne sait pas pendant combien de temps ça a duré, mais sa condition était assez extrême pour qu'il ne puisse pas être gardé comme le petit fou du village qui est un peu dérangé. On n'était pas capable de le garder en ville. Il fallait l'isoler. Et on a essayé à plusieurs reprises de l'isoler en l'enchaînant. Il était tellement violent qu'il parvenait éventuellement, tôt ou tard, à briser ses chaînes, à se libérer. Et donc, cet homme-là, qui n'était plus vraiment un homme, qui était pratiquement une bête sauvage, vivait complètement à l'écart. C'est tellement pathétique qu'il vivait, semble-t-il, dans les tombeaux. D'accord? On est dans les films les plus effrayants qui passent au cinéma ces jours-ci. Ça va? Ou autour de l'Halloween. Cet homme-là vivait dans un cimetière et se blessait lui-même puisque ses mauvais esprits le maltraitaient, abusaient de lui. Il se blessait lui-même constamment. Il n'avait plus de vie. Il vivait comme une bête sauvage. Jésus débarque, il arrive là et d'une manière surnaturelle qui nous dépasse totalement, ces esprits impurs qui sont dans cet homme reconnaissent immédiatement qui est Jésus-Christ. Et donc, aussitôt qu'ils l'aperçoivent, l'homme accourt vers Jésus et commence à parler à Jésus d'une manière que personne ne lui a parlé parmi les hommes, parce qu'ils ont une information que nous, on ne possède pas. Jésus s'adresse aux esprits impurs et guérit sur le champ cet homme. Littéralement, chasse les esprits impurs. Tant et si bien que les bergers des porcs qui étaient là, je sais que c'est touchant de voir qu'on a gaspillé beaucoup d'animaux, tout ça. Peut-être que vous vous rappellerez de mon commentaire là-dessus, mais pour Dieu, une âme, c'est plus important encore. Les bergers se sont sauvés au moment où ça s'est passé. Eux autres ne comprennent pas ce qui se passe. Leur troupeau devient fou, se tire en bas du ravin. Alors, ils vont au village pour raconter ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils reviennent avec les gens du village, ils retrouvent cet homme-là qui était une bête sauvage. C'est quelqu'un qu'on, qu'on fuyait. Tu ne voulais pas le rencontrer. Si tu devais aller honorer tes parents qui étaient décédés ou quoi que ce soit, probablement que tu te faisais accompagner pour te protéger parce qu'ils devaient être extrêmement violents. C'est ce qui nous est dépeint comme image. Et ils reviennent et ils retrouvent cet homme-là, premièrement vêtu, assis, saint d'esprit. Et là, ils sont troublés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont saisis de crainte devant l'étrangeté de ce qui vient de se passer. Mais en un instant, Jésus a redonné une vie à cet homme-là. En un instant, Jésus a pris un individu qui n'avait plus de vie, qui vivait comme un animal sauvage. Ça devait être cauchemardesque. J'ai aucune expérience là-dedans, vous comprenez? Mais il me semble que ça ne devait pas être beau ce qui se passait dans sa tête. S'il y avait de la lucidité à quelque part, ça devait être vraiment terrible. Et tout à coup, cet être-là est là devant eux, saint d'esprit. Jésus lui a redonné une nouvelle vie. Il lui donne de l'espoir. Il vient de le sortir d'un cauchemar perpétuel. Jésus vient de donner une nouvelle chance à cet homme-là. Et on ne sait pas combien de temps ça a duré, comme j'ai dit. Est-ce que c'était des années, des mois? On ne le sait pas. On ne sait pas combien de temps il a vécu dans cette espèce de trouble intérieur. Mais en l'espace d'un instant, il retrouve son bon sens et là, il fait une demande à Jésus. Selon moi, il fait la demande la plus logique, la plus sensée. Il dit, « Est-ce que je peux venir avec toi? » Est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux aller avec toi? Laissez-moi faire un petit peu de pop psychologie ce matin, OK? Parce qu'on n'a pas les réponses. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça exactement? On spécule et c'est ça que je vais faire. Je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que cet homme-là veut s'accrocher à Jésus immédiatement et veut partir avec lui. Mais regardez, premièrement, il vit seul. Il vit seul et incompris depuis longtemps. Et tout à coup, Jésus débarque dans sa vie littéralement. Boum! Une nouvelle vie s'ouvre à lui. Cet homme-là ne vit plus en société depuis extrêmement longtemps. Alors, est-ce que c'est simplement par gratitude, par reconnaissance? Est-ce que cet homme-là est simplement en train de dire à Jésus, « Écoute, tu m'as redonné la vie, je te dois tout. Laisse-moi te suivre, laisse-moi te servir, laisse-moi t'accompagner, je vais m'occuper de toi, tu prêcheras, tu iras faire du bien comme ça aux gens, je vais travailler pour que tu puisses manger, laisse-moi simplement être avec toi. » Peut-être que c'est simplement par gratitude. Jésus vient de redonner un sens à sa vie, alors il veut vivre et le suivre. Peut-être que c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre élément aussi, j'ai l'impression qu'il y a un élément de repère. Peut-être que Jésus est son seul repère à ce point-ci. Peut-être que cet homme-là a perdu tout repère dans la vie. Il l'a perdu depuis longtemps. Cet homme ne vit plus en société depuis un bon bout de temps et il n'a plus de repère. Comme certains d'entre nous, lorsque Christ entre dans notre vie. Alors, sans que ce soit aussi extrême que ça, je comprends. Il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui avaient vécu dans des tombeaux, tout ça, je comprends. Mais cette notion, cette idée, que lorsque Christ entre dans notre vie pour plusieurs d'entre nous, Christ devient notre point de repère. Parce que souvent, la conversion se produit à un moment critique dans la vie. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des conversions qui sont plus simples et plus saines, j'ai le goût de vous dire. Tant mieux pour vous, je suis content pour vous. Dans mon cas, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, quand Christ est entré dans ma vie, c'est un point de repère. Il n'y en avait plus de repères. Et je peux tellement m'identifier avec ce besoin de m'accrocher après Christ. Alors, possiblement que c'est ça qui se passe dans sa vie. Jésus-Christ devient son seul point de repère. Puis regardez comment les gens de la ville réagissent devant ce que Jésus a fait. C'est trop fou pour eux. Cet homme-là vivait seul, c'était un sauvage. Tout d'un coup, il est saint d'esprit. Il me semble qu'ils auraient dû lui sauter au cou, non? Mais c'est trop wild ce qui se passe là. C'est comme dur à comprendre. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie là? C'est trop bizarre. Et ces gens-là ont peur. Et encore une fois, je peux m'identifier avec ça. Parce que bien souvent, au moment de notre conversion, les gens dans la famille nous regardent aller et ils disent « Oh, t'as mélangé des produits, toi, là. Hein? L'alcool, les médicaments, ça ne va pas ensemble. LSD, un spiff avec ça. Non, ce n'est pas des bons mix, Yannick. » Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas notre paix, ne comprennent pas notre joie, ne comprennent pas de quoi on parle. On a l'air de triper sur des choses tellement plates, tellement bizarres. Il y a une espèce de joie, tu sais. Tu as l'air sur un high un petit peu tout le temps. Pour plusieurs d'entre nous, moi, c'était mon cas. J'ai libéré, boum, ça tombe à terre. Ouh, je suis sur un high. Qu'est-ce que tu as pris? Rien. L'Esprit Saint. Et il y a cette espèce d'incompréhension. Ils nous écoutent parler, puis... Oh, t'es weird, toi, mon gars. C'est où tu vas? À l'église de l'espoir. Alors, regardez la réaction de ces gens-là. C'est complètement fou pour eux. Alors, je sais que je suis en train de spéculer, mais il me semble que si j'avais été à sa place, la solution la plus simple, ça aurait été de suivre Jésus, de partir avec Jésus, au lieu d'avoir à commencer à m'expliquer avec tout le monde. « Oh, mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans des tombeaux? Est-ce qu'on peut revenir sur ton passé? » Parce qu'il y a ça aussi, hein? Il y a ça aussi. Quand tu rencontres Jésus-Christ, souvent, c'est dans un moment de crise dans ta vie. Et au moment où Christ entre dans ta vie, il commence à faire du ménage, tout ça... Il y a des explications à donner autour de nous, non seulement sur ce qui vient de se passer là, mais sur les niaiseries aussi qu'on a faites avant. Il y a un passé à assumer aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas la tentation à ce moment-là, tout simplement de dire, regarde, une nouvelle vie. Je m'offre une nouvelle vie avec toi, Jésus. Tu viens de me donner l'intelligence, je m'offre une nouvelle vie. Je pars avec toi. Pas d'explication à donner, la liberté enfin. Je pars avec toi, Jésus. Tu viens de me donner mon bon sang. Je vais te suivre, je vais partir avec toi. Aucune explication à donner, rien à expliquer. Il me semble que ça aurait été beaucoup plus simple pour lui. Et même si nos conversions, nos expériences à nous avec Jésus n'ont pas toujours le même grandiose, le même extraordinaire, je pense que c'est parfois tentant pour nous de rentrer dans la communion des saints. Dans l'Église, de rester entre nous. De toute façon, on le sait, on est bizarre. Restons ensemble. Une gang de weird, on se comprend? Vous le savez, vous voyagez sur la terre, puis vous allez visiter une église, puis si cette église-là prêche l'Évangile, vous commencez à parler avec les croyants, puis à un moment donné, vous dites, « Oh, attends un petit peu, Saint-Esprit est partout sur la terre. Hein? Tu viens de trouver un autre weird. T'es comme chez vous. Peut-être pas parfaitement, mais t'es chez vous, t'es avec quelqu'un d'autre. » qui a été touché par la grâce de Jésus-Christ. Tu te sens chez toi. Et je pense qu'il y a cette tentation et que probablement elle était là d'aller commencer une vie nouvelle, de se coller à Jésus, de se coller aux chrétiens, à ceux qui sont dans notre gang, ceux qui comprennent ce qui s'est passé dans notre vie. Et tout simplement, il demande à Jésus, « Est-ce que je peux partir avec toi? Laisse-moi partir avec toi. Laisse-moi me coller à toi. » Mais Jésus ne le lui permet pas. Jésus lui dit non. Et j'imagine, là, on a un récit un petit peu résumé. J'imagine que Jésus a pris le temps de lui dire, c'est super, je suis content que tu veuilles venir avec moi. Je suis content que tu sois reconnaissant. Je comprends que c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais voici ce que je veux que tu fasses. Si vraiment tu es reconnaissant, si vraiment Dieu t'a touché et Dieu t'a fait grâce, voici ce que je veux que tu fasses. Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Dans ma perspective, c'est une direction vraiment étrange que Jésus donne à cet homme-là. Et ce matin, comme Charles Spurgeon, je voudrais qu'on retienne des leçons pratiques de ce que Jésus fait avec cet homme-là. Alors que nous nous préparons à aller vers nos familles pendant la période des fêtes. Première observation pratique. La foi en Jésus-Christ ne vient pas effacer et faire disparaître nos liens familiaux. Je suis désolé de vous l'apprendre parce que certains d'entre vous en êtes déçus. Certains d'entre vous, en venant à Jésus-Christ, vous avez tourné la page sur votre famille. La foi en Jésus-Christ ne vient pas effacer et faire disparaître nos liens familiaux. Voyez-vous, Jésus renvoie cet homme vers les siens, vers ses proches, vers sa famille. En d'autres mots, Jésus lui dit, « La vie continue, mon homme. » Ou peut-être « La vie recommence. » La vie recommence pour toi, c'est un nouveau départ. Alors retourne auprès des tiens. Abandonne-les pas. Selon les Écritures, la famille est une institution divine. C'est Dieu qui l'a conçue. C'est Dieu qui a eu ce design-là pour que Hans puis Geneviève se marient puis qu'il y ait un petit poupon qui arrive là-dedans. C'est Dieu qui a conçu ça. C'est sacré, c'est une institution divine. Et la conversion ne vient pas annuler ça. Ma conversion ne m'amène pas à renier mes parents, à renier ma famille, à renier mes amis, à renier mes proches, à les rejeter, à les repousser loin de moi. Mais il y a une tentation parfois lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, lorsque Christ entre dans notre vie, de nous isoler de notre famille qui ne nous comprend pas, de nous tenir avec notre gang qui nous comprend, comme je l'ai dit. Et je pense que souvent, c'est une manière de fuir notre histoire aussi. C'est plus simple. Ça nous apparaît plus simple. C'est faux, parce que ton histoire te suit jusqu'à ce que tu règles ça avec Dieu et avec les gens. Mais c'est une manière pour certains de tourner la page, de fuir notre histoire brusquement. Et notre famille et nos amis ne comprennent pas qu'on se retire. Et ça peut être dû au fait que nous sommes mal à l'aise, on se sent incompris dans ce qu'on vit à présent. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous demande de faire. Jésus demande à cet homme-là d'aller vers les siens. Et c'est certain qu'ils ne comprendront pas. Ils ont déjà peur de ce qui vient de se passer dans sa vie. Jésus ne nous demande pas de couper les liens. Et peut-être que vous pouvez penser à cet épisode où Jésus est en train d'enseigner. Puis il y a des gens de sa famille qui viennent, puis ils veulent le prendre. Puis Jésus donne comme réplique, « Voici ma famille, voici mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Il ne faudrait pas déduire de ça que Jésus nous demande de quitter nos amis, de quitter notre famille. Lorsque sa famille intervient, ils sont en train d'essayer de s'opposer à son ministère. C'est une incompréhension. Et tout ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire une vérité que nous avons tous expérimentée. Si vous êtes chrétien comme moi, vous avez tous expérimenté qu'en devenant chrétien, on découvre une nouvelle famille. Amen. Je découvre une famille spirituelle, c'est vrai. Et souvent, je me sens plus compris dans ma famille spirituelle que dans ma famille naturelle. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. En même temps, Jésus n'est pas en train de rejeter toute sa famille. Il va avoir du souci jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Il va avoir du souci même pour sa mère. Alors voyez-vous, Jésus ne nous demande pas de rejeter nos proches. C'est possible qu'eux soient mal à l'aise. C'est possible que nous ne nous sentions pas compris par eux. C'est possible qu'ils soient mal à l'aise avec notre langage. Puis vous savez, des fois au début, on est tellement maladroit. Des fois, c'est fait même avec tellement de prétention, notre affaire. On arrive, puis on a trouvé la vérité, puis je vais vous expliquer la vérité parce que vous êtes tellement dans l'erreur. Mais Jésus ne nous demande pas de couper ces liens-là, c'est faux. Jésus dit à cet homme, va vers ta famille, raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. Alors la foi en Jésus-Christ ne vient pas effacer et faire disparaître nos liens familiaux. Au contraire. Moi, je vous dirais que lorsqu'on vient à Christ, on trouve de nouvelles ressources pour s'investir dans nos relations familiales. En Jésus-Christ, je trouve une grâce pour honorer des parents qui ne sont peut-être pas toujours honorables. En Jésus-Christ, je trouve une grâce pour pardonner parce que j'ai été pardonné. En Jésus-Christ, je trouve une grâce pour aimer celui qui n'est pas aimable parce que Christ m'a aimé, moi qui n'étais pas aimable. Alors, au contraire, même si ça fait de nous des gens très bizarres d'avoir la foi puis d'avoir reçu l'Esprit, puis on parle d'affaires bizarres, c'est censé faire de nous de meilleurs fils, de meilleures filles, de meilleurs frères, de meilleures sœurs, de meilleurs cousins, de meilleurs amis. Et peut-être que ma famille ne voudra plus me voir. Peut-être que mes amis vont décider que ce n'est pas le fun de passer du temps avec moi. Ça, c'est une autre histoire. Mais je devrais examiner devant le Seigneur. Est-ce que les liens sont en train de s'éroder parce qu'ils me rejettent ou parce que moi, je ne suis pas le fils, la fille, le frère, la sœur, le cousin, la cousine, l'ami que je suis censé être. Pour honorer cette institution divine qu'est la famille, avec la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ n'est pas censée m'amener à m'éloigner de ma famille, même si c'est possible que ma famille s'éloigne de moi. Alors la vie continue et je vais vers eux. Ce matin, à la veille de Noël, je vais vous dire la même chose que Jésus a dit à cet homme, puis on va aller juste chercher quelques éléments très, très pratiques. D'accord? Rentrez dans vos familles, racontez-leur ce que Christ a fait pour vous et combien il a eu pitié de vous. Parce qu'on a tous une histoire à raconter. Et donc, un autre élément pratique, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour raconter ce que Jésus a fait pour vous. Voyez-vous, ce gars-là n'a pas fait son cours de préparation au baptême, il n'a pas fait son cours de disciple 101, aucun cours d'évangélisation. Sa théologie doit être absolument tout croche. Mais il n'a pas besoin de faire des cours pour faire ce que Jésus lui a demandé. Il a tout l'équipement nécessaire. Jésus lui dit, va raconter ton histoire. Va leur dire ce que Dieu t'a fait. Parle-leur de ce qui s'est passé dans ta vie. Racontez-leur votre histoire personnelle. Des fois, on a l'impression que notre histoire est trop plate. T'sais, on lit le livre de Tony Anthony, puis on dit, ben, je vais aller parler de Tony Anthony pendant les fêtes. Ouais, mais Tony Anthony, c'est comme... C'est Karate Kid, tu sais. À moins qu'il vienne à son témoignage, c'est pas réel, cette affaire-là. La vraie histoire, c'est la tienne. La vraie histoire de grâce, de pitié, c'est la tienne. Va leur raconter ton histoire à toi. Est-ce que Dieu a eu pitié de toi lorsque l'Évangile est entré dans ta vie? Dieu a eu pitié de moi, je n'avais pas de repère. Ma vie était déprimante. J'étais dans un processus où je n'arrivais pas à construire. Ça, c'est mon expérience à moi. Moi, je peux raconter cette histoire, c'est peut-être pas la vôtre. C'est mon histoire à moi. Et Dieu a eu pitié de moi parce que mon histoire familiale ne disait pas que je pourrais me marier et être fidèle à une femme. Mon histoire familiale racontait une autre histoire que ça. Dieu a eu pitié de moi parce qu'à travers l'Évangile, il est venu briser des péchés générationnels dans mon foyer. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu a eu pitié de moi parce que je marche encore avec lui aujourd'hui. Et je sais que je suis encore suffisamment pécheur pour l'abandonner à tout moment si ce n'était de sa grâce qui me soutient. Dieu a eu pitié de moi parce que mes enfants savent que je les aime et ils n'ont pas peur de moi. Moi, je sais que je suis un colérique. Ils devraient avoir peur de moi si ce n'était pas de la grâce de Dieu. Voyez-vous, j'ai une histoire à raconter qui est bien personnelle. Racontez votre histoire à vous. Comment Dieu a eu pitié de vous, comment il a eu compassion de vous. Prenez le temps de voir quelles sont les grâces et les compassions de Dieu dans votre vie. Racontez-leur ce que vous avez vécu. C'est toujours contestable, les idées. Mais les histoires personnelles, c'est dur. C'est dur de mépriser ça. C'est tellement méchant de mépriser des histoires personnelles. Et il y a une grâce. C'est jamais aussi fort une histoire que lorsque c'est ton histoire à toi. Ce que Dieu est venu faire dans ta vie. Racontez-leur ce que vous avez vécu. Prenez le temps d'y réfléchir. Il ne s'agit pas de faire étalage de vos nouvelles connaissances théologiques. Hey, cette année, j'ai lu un bon livre, c'est super génial. J'ai compris tout le principe de la souveraineté de Dieu, puis comment Dieu est souverain, puis le libre arbitre de l'homme. Regarde, si tu veux faire peur au monde, rentre là-dedans. Explique-leur ça, juste pour le fun. Ils vont se sauver, là. Comme dans le texte ici, là. Ce n'est pas le temps de faire étalage de tes connaissances. Ce n'est pas ça l'idée. Racontez-leur la grâce que Dieu vous a faite. Il y a des gens qui racontent leur histoire, puis on dirait qu'ils sont plus fiers du passé avant la conversion que ce qui s'est passé à la conversion. Mais ce n'est pas une histoire de grâce, ça. Il y a des gens qui racontent leur histoire, puis tu les écoutes, puis tu te dis, « Si seulement j'étais comme lui, j'aurais cherché Dieu. » Parce qu'eux autres cherchaient Dieu, tu sais. Ce n'est pas une histoire de grâce. Moi, je savais qu'au moment où j'ai commencé à chercher Dieu, la grâce de Dieu était déjà opérante dans ma vie. Parce qu'avant qu'il fasse ça, tout ce que je faisais, c'est que je courais dans l'autre direction. Racontez-leur une histoire de grâce. La grâce que Dieu vous a fait de vous attirer à lui et d'entrer dans votre vie. Faites-le pour le Seigneur par reconnaissance. Faites-le pour rendre hommage à Jésus. Regardez le verset 19. Mais Jésus ne le lui permet pas, ne lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors, il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des dix villes ce que Jésus avait fait pour lui. Fais-le par honneur pour ton Seigneur. Raconte cette histoire pour honorer Jésus-Christ, pour rendre honneur à Jésus et ce qu'il a fait dans ta vie. Fais-le pour le Seigneur par reconnaissance, sans orgueil. Racontez votre histoire pour édifier les chrétiens. Vous allez voir des chrétiens aussi pendant la période des fêtes et ils ont besoin d'entendre les compassions de Dieu dans votre vie. Je vous dirais les compassions de Dieu dans votre conversion, mais les compassions de Dieu cette année dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin d'entendre, premièrement, cette histoire-là. Peut-être que vous avez besoin, premièrement, de vous raconter cette histoire-là, de compter les bontés, la grâce de Dieu dans votre vie cette année, avant de terminer l'année, pour pouvoir, après ça, compter ça à des frères et sœurs dans la foi qui ont besoin de voir la grâce de Dieu agissant dans votre vie. Racontez votre histoire pour que certains soient touchés par l'Évangile. Parce qu'on vit à une époque où les gens sont méfiants contre la parole, sont méfiants contre la doctrine, ils sont méfiants contre des affirmations qu'on fait. Commencez par raconter votre histoire. Un conseil pratique, attendez d'être seul. C'est une chose raconter mon histoire à 10 personnes, c'est tellement facile d'être méprisant, de commencer à se moquer de moi si je suis en train de parler avec 10 personnes. Mais cherchez les occasions pendant les fêtes où vous allez vous retrouver seul à seul avec quelqu'un. Puis commencez à leur raconter votre histoire. Seul à seul, afin qu'ils puissent être touchés par l'Évangile. Faites-le avec humilité. Vous êtes là pour parler d'un grand Dieu. Vous êtes là, vous n'êtes pas là pour dire que vous avez trouvé la meilleure religion au monde, vous avez trouvé la vérité, puis eux autres sont dans l'erreur. Faites-le avec vérité. Essayez pas d'embellir votre histoire. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Elle n'a pas besoin d'embellissement. Vous n'avez pas besoin d'avoir vécu dans un tombeau, d'avoir consommé de la dope, ou que ça a été vraiment comme surnaturel. Je vous le dis, si vous avez saisi la grâce, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé là. Et si vous avez décidé de suivre, de marcher à la suite de Jésus-Christ, il y a un miracle spirituel qui s'est passé là. N'embellissez pas votre histoire. Racontez-la avec vérité. Veillez sur votre propre témoignage pendant les fêtes. Parce qu'ils veulent voir une vie qui a été transformée. Alors que ce ne soit pas pour vous une occasion de chute, d'aller vers les vôtres, de retourner dans votre vie passée, mais au contraire, de venir avec cette grâce qui vous a transformé. Comme le disait Spurgeon, « Don't neglect your personal devotions. » C'est tellement facile de ne pas aller faire la parole pendant les fêtes. Prenez le temps le matin d'aller chercher cette grâce qui est auprès du Seigneur, dans sa parole, dans la prière, pour pouvoir après raconter cette histoire. Ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Je suis certain que cet homme-là ne l'a pas eu facile après. Et ce n'est pas tout le monde qui a trouvé ça extraordinaire. Et après quelques temps, les gens ont dit, « Oui, on connaît, c'est ton histoire, c'est correct. » Tant mieux pour toi, tu es plus agréable à vivre maintenant, je suis content pour toi. Reposez-vous sur l'Esprit-Saint pour faire la différence, pas sur vos propres forces. Rappelez-vous que ce n'est pas une question de compétence. Si c'était le cas, Jésus a fait une moyenne gaffe ici. Parce que cet homme-là n'avait pas acquis beaucoup de compétences et de connaissances théologiques. Mais voyez-vous, ce que nous offrons au monde, c'est la grâce de rencontrer Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas un programme. Ce n'est pas une super patente. C'est une vie transformée par une rencontre avec Jésus-Christ. Et ça, vous l'avez. Si vous êtes en lui, vous l'avez cette histoire-là. Et enfin, rappelez-vous que c'est l'histoire qu'on va raconter dans l'éternité ensemble. Lorsque Jésus-Christ est entré dans ma vie, que je suis passé de cet état de fils de la colère, loin de Dieu, errant dans un désert spirituel, et au moment où, dans sa grâce, il m'a attiré à lui. Je résistais tellement à son appel. J'avais entendu l'Évangile depuis tellement longtemps. Mais il m'a attiré à lui jusqu'à ce que je tombe à genoux. Littéralement, dans mon cas, dans la période des fêtes. que mes résistances, mes chaînes à moi tombent. Et que je puisse dire, Seigneur, c'est toi qui vas diriger ma vie à partir de maintenant. Et ça, c'est l'histoire que je vais raconter dans l'éternité. Parce que c'est là que ma vie a commencé. Allez raconter votre histoire cette année pendant les fêtes. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voudrions partager la grâce que tu nous as faite. Et plusieurs d'entre nous, ça fait déjà bien des années qu'on est chrétiens et on a cherché à raconter cette histoire et on s'est senti incompris. Et plusieurs d'entre nous, on a même coupé les ponts à travers les années avec la famille, avec les amis. On s'est installé dans une vie plus confortable entre chrétiens, entre gens qui se comprennent. Et on s'est isolé de cette famille, Seigneur. Mais ma famille, mon père et sa blonde et mon beau-père et son épouse et les cousins et les cousines et les amis, Seigneur, ont besoin d'entendre mon histoire. Parce que tu m'as fait grand, Jésus, et vraiment ma vie est tellement bénie en toi. Et je sais au plus profond de moi-même, Seigneur, qu'ils ont besoin que tu viennes les délivrer comme tu as délivré cet homme, comme tu m'as délivré moi-même, Seigneur. Je sais dans le fond de mon cœur, dans le fond de mon âme, que c'est de ça dont ils ont besoin, Seigneur. Je prie de m'accorder la grâce et la force et le courage de t'honorer cette année pendant les fêtes et avec une grande naïveté, avec une grande simplicité, simplement aller leur raconter mon histoire à moi, Seigneur. Prépare leur cœur afin, Seigneur, que lorsque nous allons nous retrouver le 2 janvier, on ait de belles histoires à se raconter ensemble, de l'ouverture des cœurs qu'on a rencontrés cette année pendant les fêtes. Afin que ton évangile, Seigneur Jésus, puisse entrer dans nos familles. C'est en son précieux et glorieux nom que nous te prions. Amen.